France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Louise Cognard, Fanny Richer, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Le Cuivre. Et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée aux villes qui s'opposent aux pouvoirs centraux. Nous parlions hier de New York et de son nouveau maire, Zoran Mamdani. Aujourd'hui, Istanbul, assiégée par le pouvoir, comme l'a été la maison de son maire, Ekrem İmamoğlu, le matin du 19 mars, le jour de son arrestation.
Je regrette de devoir annoncer qu'une bande de personnes qui tentent d'usurper la volonté de notre nation utilisent notre police, les forces de sécurité de ce pays, à des fins malveillantes. Ils ont déployé des centaines de policiers à ma porte. Je continuerai à me battre contre Erdogan et sa mentalité qui a utilisé tout ce processus comme un outil.
Dans un grand pays comme la Turquie, le principal parti d'opposition est minuscule, archaïque et d'une incompétence crasse. Il est désormais évident qu'on ne peut même pas leur confier la gestion d'un kiosque municipal, et encore moins celle de l'État ou des administrations locales.
Il y a 6 ans, lorsque les institutions étatiques ont compris qu'elles allaient perdre les élections à Istanbul, elles ont soudainement interrompu la publication des résultats. Depuis ce jour, ceux qui gouvernent le pays ont peur d'Ekrem İmamoğlu et de son immense popularité. Cette peur les a poussés à bafouer la loi et la démocratie.
Ce jour de mars où Ekrem İmamoğlu a été arrêté par la police à son domicile, il a d'abord soigneusement noué sa cravate et puis il s'est présenté sur le seuil de sa porte. Une assurance tranquille pour le maire d'Istanbul qui vit depuis 9 mois dans les 12 mètres carrés de sa cellule au centre pénitentiaire de Marmara, à l'ouest de la capitale politique turque, en attente de son procès qui devrait avoir lieu dans 2 mois. L'acte d'accusation liste 142 infractions pénales qui lui font risquer en tout plus d'années de prison que celle qui nous sépare du début de notre ère. Recep Tayyip Erdogan a dit un jour « Si nous calons à Istanbul, nous trébucherons en Turquie. Mais si nous tenons fermement à la ville, alors aucune force ne pourra nous détruire. » Le président turc connaît bien Istanbul pour y avoir grandi et pour avoir commencé là sa carrière politique. Il sait donc mieux que quiconque que diriger la ville est un bon marchepied pour le pouvoir. Alors quand Ekrem İmamoğlu, fort de sa popularité auprès de ses administrés, a annoncé qu'il serait candidat pour la présidentielle de 2028, il n'aura pas fallu plus de quelques jours pour qu'il voie débarquer chez lui ces centaines d'agents venus l'arrêter. Bonjour Dorothée Schmidt.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. Vous avez écrit « La Turquie en 100 questions » aux éditions Talendier. Bonjour Jean-François Pérouse.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans Culture Monde. Vous êtes enseignant-chercheur de l'Université de Toulouse 2, géographe urbain. Vous avez écrit Istanbul Planète, la ville-monde du 21e siècle aux éditions La Découverte. Et vous êtes vous-même sur place à Istanbul. Ça fait maintenant 9 mois que le maire de la ville est en prison. Qui dirige aujourd'hui Istanbul, Jean-François Pérouse? Est-ce que ses équipes sont toujours là? Est-ce que peuvent se rendre à la mairie tous les jours ses agents et continuer le travail?
Alors, ces équipes sont là et elles sont plus soudées que jamais. Bon, alors, il y a une partie, puisque lors de la première vague, Ekrem İmamoğlu a été arrêté avec 99 bureaucrates ou collaborateurs. Donc, il manque ces 100 personnes et puis toutes celles qui ont été arrêtées lors des vagues ultérieures. Mais néanmoins, il faut rappeler que cette mairie métropolitaine d'Istanbul, c'est près de 90 000 employés. Donc, c'est un énorme appareil et qui fonctionne encore maintenant, malgré tout. On a envie de dire malgré tout, malgré l'acharnement du pouvoir central à l'empêcher de fonctionner.
La gestion de l'eau, des transports, des travaux publics, du gaz, ce sont des entreprises d'économie mixte qui s'en occupent. Elles fonctionnent aussi. Qui les dirige aujourd'hui ?
Alors, on a en fait une double gouvernance qui a été imposée, c'est-à-dire que d'un côté, il y a encore, disons, les organes de la municipalité métropolitaine qui tentent de fonctionner, et puis de l'autre, sur un certain nombre de dossiers sensibles, ça veut dire bien souvent des dossiers où les enjeux financiers sont très forts, et bien le pouvoir central a réussi à s'imposer. Et en fait, dès la première élection d'Imam Oulu en mars 2019, ces dossiers sont ceux des transports, ceux du logement, et ceux de la lutte contre le risque sismique, les deux derniers dossiers étant liés. On pourrait rajouter aussi le tourisme. C'est-à-dire que là, le pouvoir central, à travers la préfecture, à travers les ministères, à travers aussi ces relais multiples dans les municipalités qui sont encore les municipalités d'arrondissement, parce qu'il faut bien voir qu'on a donc une municipalité métropolitaine et 39 municipalités d'arrondissement, dont plus de la moitié est acquise au Parti républicain du peuple, à l'opposition. Mais parallèlement donc à l'arrestation de Ekrem İmamoğlu, ont été arrêtés aussi de très nombreux maires du même parti de mairies d'arrondissement. Ce qui fait que tout le système de la gouvernance est bouleversé et on a une espèce de dédoublement qui est assez vertigineux et qui a des conséquences quand même assez négatives sur l'efficacité de la gestion au quotidien.
Donc en Turquie, à Istanbul, les élections locales ne consistent pas seulement en l'élection des maires de la ville, en effet, et à Istanbul, il y a à la fois le maire Ekrem İmamoğlu, les 39 maires d'arrondissement, les plus de 800 maires de quartier. Tous ne sont pas membres du CHP, le Parti républicain du peuple d'Ekrem İmamoğlu, mais ceux qui le sont ont été pour beaucoup arrêtés également. Alors, Ekrem İmamoğlu, aujourd'hui, Dorothée Schmidt, est accusé de diriger un réseau criminel. 142 chefs d'accusation pèsent contre lui. Est-ce que son inculpation crée de véritables débats à Istanbul et plus généralement en Turquie ? Est-ce qu'on attend son procès en mars pour en savoir plus, avoir d'éventuelles révélations sur ce réseau criminel et son rôle à lui, où vraiment personne n'y croit? J'ai l'impression que le contexte aujourd'hui politique un peu partout oblige à poser des questions assez bêtes, mais je suis obligée de vous la poser. Est-ce qu'aujourd'hui certains pensent qu'en effet, peut-être, Ekrem İmamoğlu est aversé dans des problèmes de corruption, dans un réseau criminel ou que sais-je?
Bon, alors on va s'exprimer, je suppose, Jean-François Pérouse aura aussi un avis certainement d'analyste politique sur cette question. Le moment de l'arrestation d'İmamoğlu, c'est un moment où on voyait une dynamique d'opposition se consolider en Turquie, qui s'était installée, qui prenait son énergie dans le pouvoir municipal. Donc ça, c'est une chose qui était visible depuis les résultats des élections municipales en 2024, où l'opposition avait eu des très grands résultats et avait récupéré toutes les grandes villes de Turquie quand elle ne les contrôlait pas déjà, ce qui était le cas d'Istanbul, d'Ankara, d'Izmir. Donc la Turquie utile, entre guillemets, économiquement et politiquement. Donc ça, c'était une dynamique d'opposition plus générale qu'on voyait. Et Istanbul en particulier, la figure d'Ekrem İmamoğlu était très largement identifiée comme étant l'homme qui allait défier Tayyip Erdogan et qui était la seule personnalité d'opposition capable vraiment de s'imposer comme un challenger d'Erdogan parce qu'il avait le charisme, la jeunesse aussi, il est beaucoup plus jeune qu'Erdogan, une personnalité un peu de caméléon aussi, c'est-à-dire qu'il vient quand même d'une famille conservatrice, il vient d'ailleurs de la mer Noire, qui est la région d'origine de Tayyip Erdogan aussi, qui a donné des politiciens très, très talentueux, qui ont beaucoup de réussite en tout cas à la Turquie. C'est quelqu'un qui, à certains moments, a tendu la main aux Kurdes, qui a été élu en partie avec l'électorat kurde à Istanbul, qui était donc vu comme une personne de renouveau de ce parti républicain d'opposition, qui est un parti un peu sclérosé, qui est le parti qui a fondé la Turquie, c'est le parti d'Atatürk. Donc ça a été un parti qui a été parti unique pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'était cette opposition crédible qui relève la tête à travers cette personnalité en particulier. Donc ce que cible Erdogan, c'est l'alternance qu'il veut empêcher de façon plus générale. Et on peut avoir l'impression que c'est une tentative désespérée. Est-ce que arrêter tous les maires de l'opposition va empêcher l'opposition de gagner les élections? Bon. L'année dernière, quand Imamoglu a été arrêté, le parti a eu une réaction très efficace. L'organisation de grandes manifestations, le patron du parti, Özgür Özel, s'est montré aussi très ferme à la barre, très astucieux, très créatif dans sa résistance. Et donc, je dirais qu'on y a cru, en fait, hein, pendant pas mal de mois. On s'est dit, tiens, quelque chose est en train vraiment de bouger en Turquie. L'été a passé, cette dynamique de réaction, elle est devenue moins évidente, moins visible. Et on s'est dit, ah tiens, Erdogan a envie de tenir fermement. Donc maintenant, je trouve qu'on est dans cet entre-deux, où on ne sait pas très bien jusqu'à quel point l'opposition peut maintenir ses ressources, parce qu'elle a recommencé à se diviser aussi. Et donc ça, c'était l'autre grand danger. Et si on continue sur cette espèce de dézoomage, puisque là, je suis sortie un peu d'Istanbul, en parallèle, il y a un facteur très important en Turquie, c'est le processus de paix avec les Kurdes. Et c'est là que Erdogan veut récupérer des voix et veut dépasser cette opposition classique en recomposant encore le paysage politique de façon plus large.
Même si pour l'instant, il ne s'est pas officiellement représenté pour 2028. D'ailleurs, a priori, il n'en a pas le droit.
Il avait même dit qu'il arrêterait la politique. Hein. Il l'avait dit à la dernière élection, que c'était sa dernière élection.
Et néanmoins, en effet, Ekrem İmamoğlu, à peine déclaré candidat, qu'il est arrêté. Ce n'est pas le premier maire, loin de là, de l'opposition à être arrêté par le pouvoir central. On pense à tous les maires kurdes qui ont été arrêtés ces dernières années pour des motifs aussi souvent de corruption et remplacés par des administrateurs civils. D'où la question que je vous posais, est-ce que quelqu'un y croit? C'est vrai que le pouvoir a publié une sorte d'organigramme pour montrer à quel réseau tentaculaire Ekrem İmamoğlu serait à la tête. Le procureur général parle de pieuvre, mais son entourage dit bien que même ses plus proches collaborateurs ont été menacés de poursuites s'ils ne signaient pas un procès verbal à charge. Maintenant, Jean-François Perros, pour revenir à Istanbul, comment a été vécu dans la ville son arrestation en mars dernier par les Stambouliotes? Quel maire est-il pour eux?
Il avait surtout après 5 années, donc après un premier mandat, réussi, hein, puisqu'il a été réélu avec une plus grande différence encore par rapport au candidat du parti, donc de Recep Tayyip Erdogan.
Plus d'un million de voix en plus.
Donc, Voilà. Donc il a été plébiscité, véritablement. Hein. Et donc il a réussi à conquérir une partie importante de l'électorat, la partie féminine, hein, par un certain nombre d'initiatives efficaces, mais aussi par un discours, hein, c'est un tribun, hein, et qui manipule bien une certaine rhétorique égalitaire, hein, et qui a touché, hein, mais il a eu aussi des initiatives très concrètes pour les femmes, donc pour le transport des femmes mères, pour les crèches. Il a eu des initiatives importantes vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des étudiants, là aussi qui ont porté. Bref, il jouit, hein, incontestablement d'une popularité qui s'est renforcée et qui, se consolide encore, hein, face à cette espèce de il devient une victime, hein, d'un système, de la même façon que quelques décennies auparavant, Recep Tayyip Erdogan avait pu être victime d'un système, hein, au moment donc où, à la fin de son mandat, hein, à Istanbul, hein, il est interdit de vie politique, hein, et où il séjourne quelques mois seulement, hein, fait que 3-4 mois en prison, mais ça lui a suffi à se construire, hein, comme une victime, hein, et à faire de cette identité de victime, hein, un des moteurs de sa promotion politique.
C'est vrai que Recep Tayyip Erdogan avait le même discours à l'époque quand il était maire d'Istanbul. Il disait être une victime du pouvoir central. Est-ce que ça va se retourner contre lui aujourd'hui en montrant qu'il est en train de faire l'exact inverse, enfin de faire exactement ce qu'il dénonçait à l'époque vis-à-vis du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui lui défend son bilan depuis sa cellule de prison à Marmara.
Le CHP est aujourd'hui le premier parti de Turquie parce que nous gérons mieux les municipalités que nous avons remportées. À Ankara, Mersin, Adana, Esenyurt, Istanbul, nous n'avons pas laissé nos villes être pillées, nous les avons mieux gérées. Malgré la réduction de nos ressources, nous avons construit plus de métros que quiconque. Nos municipalités protègent les plus démunis, les plus pauvres. Personne n'est laissé pour compte. Grâce aux cartes municipales pour nos femmes, aux cantines urbaines pour les plus modestes, aux services pour nos retraités, nous sommes le parti le plus populaire.
C'est vrai qu'Ikrem İmamoğlu ne cesse de défendre son bilan, son projet de développement du métro, notamment à Istanbul, ses ouvertures de crèches dont parlait Jean-François Pérouse. Est-ce que ça veut dire, Dorothée Schmitt, que jusqu'à présent, malgré ce qu'il en a dit, Ikrem İmamoğlu, il dit que la ville est asphyxiée financièrement, il a quand même reçu des fonds pour mener tous ces projets-là?
Alors, la ville est très endettée, mais ça, c'est un phénomène qu'on observe dans toutes les immenses métropoles du monde. Et Ikrem İmamoğlu a très vite compris, pendant son premier mandat, qu'il faudrait qu'il mène des travaux pour s'approprier la ville. Cette ville qui était marquée quand même par l'empreinte aussi de Erdogan maire, qui est le premier à avoir compris que la question des transports publics était une question absolument essentielle à Istanbul, ville complètement asphyxiée par les embouteillages.
On a entendu les klaxons d'ailleurs tout à l'heure quand Jean-François Pérouse nous parlait.
Pour ceux qui sont rendus à Istanbul, si vous avez pris le Marmaray, cette sorte de RER qui passe sous le Bosphore, ça va être quelque chose qui a complètement transformé la vie d'Istanbul. Donc ça c'est Erdogan. Et je pense qu'İmamoğlu a très vite compris que la question des transports publics notamment c'était important. Donc effectivement les métros, les trams où on voit la tête d'İmamoğlu sur la Corne d'Or. Ça, c'est effectivement très important. Et tout ça, ça coûte très cher. Donc, pendant son premier mandat, la question était... D'abord, les villes, elles dépendent très largement de transferts de l'État. Et pendant son premier mandat, il avait un conseil municipal qui était contrôlé encore par l'AKP. Donc, il empêchait de travailler. Il a voulu lancer des obligations adossées à Istanbul même. Il n'a pas pu le faire. Et au deuxième mandat, il a consolidé sa majorité. Et donc, il a pu se lancer dans ses politiques de grands travaux. Donc, maintenant, Istanbul est extrêmement endetté. J'ai vérifié que Fitch, une des agences de rating, de notation financière, dit oui, ok, ils sont très endettés, mais en réalité, c'est pas du tout insoutenable étant donné les revenus qu'a Istanbul. Donc, je dirais que ça fait partie du tout venant du fonctionnement d'une très grosse ville. En revanche, ce qui est clair, c'est que dès 2024, au moment des élections municipales, avant et après les élections, l'AKP a pris comme angle critique l'endettement des villes du GEP. Il y a eu des articles publiés dans la presse pro-gouvernementale dénonçant les dépenses absolument somptuaires de ces villes, rentrant dans le détail en disant que İmamoğlu n'a que des dépenses de communication, qui dilapident donc l'argent public. Donc ça a été très tôt un sujet qui a été amené sur la place publique. Et c'est un sujet qui est d'autant plus important pour les Turcs que le pays est dans une crise économique rampante comme l'ensemble du monde, et qu'en plus cette crise elle touche beaucoup le pouvoir d'achat des petites classes moyennes. Donc la vie est devenue beaucoup plus dure au quotidien. Donc dans ces contextes-là, tous les discours sur le gaspillage public et la corruption sont beaucoup plus audibles. Et donc le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'avant c'était l'AKP qui était accusé de corruption, aujourd'hui au cœur de cette accusation sur İmamoğlu, on a l'idée d'une municipalité corrompue, et ça a été étendu à d'autres villes aussi gérées par le GEP, par le parti d'İmamoğlu.
Donc l'AKP a bien préparé le terrain, entre guillemets, en dénonçant depuis plusieurs années des dépenses somptuaires dans ces municipalités, et donc semant le grain du doute sur le est-ce qu'il y a de la corruption ou pas dans ces administrations. Or, Jean-François Pérouse, vous commencez à nous expliquer tout à l'heure qu'à Istanbul, se partage dans une forme de rivalité de gouvernance à la fois la municipalité et le pouvoir central qui a repris certaines prérogatives qui jusque-là étaient municipales. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine façon, la municipalité d'Istanbul est privée de certaines recettes qui jusqu'à présent lui incombaient et qui ont été reprises en main par le pouvoir central ?
Absolument, absolument. Et j'en veux pour preuve, dans le domaine du tourisme, hein, la confiscation, la municipalité métropolitaine s'est vue retirer la gestion d'importants spots touristiques, hein, la tour de Galata par exemple.
Hein, cette grande tour médiévale cylindrique qui domine le vieil Istanbul.
Voilà, qui est un landmark un petit peu au-dessus de la Corne d'Or. Donc, nombre de hauts lieux touristiques hein, ont été transférés de la municipalité métropolitaine vers le ministère de la Culture. Hein. Plus grave encore, c'est la confiscation de pan entier du territoire de compétence de la mairie métropolitaine. Des territoires qui sont désormais valorisés, hein, et sous la forme de programmes de logement dont on attend des recettes, hein, juteuses, des terrains gigantesques, hein, des centaines et des centaines d'hectares, hein, qui ne sont plus gérés par la mairie métropolitaine ou par les mairies d'arrondissement aux mains du GEP, mais qui sont gérés directement par le ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Réchauffement Climatique. Et c'est le tout. Ce sont des entreprises qui sont liées à la KEP, qui bénéficient des appels d'offres publics pour la valorisation de ces terrains. Donc là, il y a eu une confiscation de rentes, hein, à la fois de rentes urbaines, de rentes touristiques, hein, considérables, qui a évidemment affecté les finances de la mairie. À ceci s'ajoute le fait que l'autorisation du Trésor, qui est nécessaire pour contracter certains emprunts sur les marchés internationaux, eh bien, n'est pas donnée à la mairie, hein, ce qui fait que le nombre de ces chantiers, hein, restent inachevés.
Est-ce que évidemment. Jean-François Perros, quand l'État préempte des terrains mis en vente et s'accapare des terrains qui jusque-là étaient à la municipalité, est-ce que notamment ils les vendent aussi, vous, évidemment on sait combien les grandes entreprises liées à la KEP dans le BTP sont toujours les gagnantes des appels d'offres, etc. En Turquie, quand appel d'offres il y a, est-ce qu'il y a aussi des investissements des pays du Golfe, par exemple, qui font flamber la spéculation immobilière et donc les prix, comme on l'a vu à Istanbul, comme les étudiants turcs le savent bien, qui sont 35% à réussir les concours d'entrée dans les universités et à renoncer à leurs études parce qu'ils ne peuvent pas se loger.
Absolument. Donc là, la question du logement est absolument centrale. Bon, Imamoglu a fait son possible pour les étudiants, mais enfin, ce n'est pas suffisant et on veut lui retirer justement la compétence, hein, de pouvoir construire et gérer des foyers d'étudiants. Pour ce qui est des grands investisseurs, effectivement, ils sont appelés, hein, qu'il s'agisse de fonds d'investissement, hein, du Golfe, hein, notamment, mais aussi de Malaisie, mais aussi d'autres pays, hein, musulmans. Ils sont sollicités autour de ce qui a quand même été un des dossiers, hein, les plus, disons, centraux, hein, dans le différend entre le pouvoir central et le pouvoir métropolitain, à savoir le dossier du canal Istanbul, hein, de ce canal, hein, qu'avait imaginé dès 2011 Recep Tayyip Erdogan, hein, qui devait doubler le Bosphore, hein, et où l'on voulait détourner la circulation maritime internationale pour pouvoir la taxer, hein, au bénéfice du pouvoir. Bon, ce canal n'est pas construit, mais en revanche, les terrains qui sont autour ont été accaparés par le pouvoir central et qui les valorise, hein, à sa façon. Et donc, on se demande, hein, si ce projet pharaonique, hein, n'était pas un prétexte, hein, pour justement renforcer encore la mainmise du pouvoir central sur une partie du territoire. Mais c'est un ensemble, c'est 50 000 hectares. Enfin, il faut bien voir que il y a eu une espèce de redéploiement, hein, des territoires de la rente à Istanbul, hein, avec ces grands projets, hein, puisque le canal est articulé au troisième aéroport, lui-même articulé au troisième pont sur le Bosphore, hein. Et tout ça se fait malgré la mairie métropolitaine et contre les documents d'urbanisme élaborés par celle-ci.
Or, Dorothée Schmidt, on parle, alors dans toutes les villes c'est une question, mais à Istanbul en particulier, les risques sismiques qui sont énormes, une ville entière qui attend peut-être un jour un séisme d'une magnitude supérieure à 7 et qui pourrait détruire beaucoup sur son passage. Est-ce que cette rivalité entre le pouvoir central et la municipalité d'Istanbul a des effets concrets sur la prévention des risques sismiques?
Alors effectivement, la question de la transformation du bâti à Istanbul, qui est une ville où toutes les prévisions disent que doit se produire un séisme majeur dans les 30 prochaines années et que la ville n'est pas du tout préparée. On a eu cette alerte avec le très grand tremblement de terre de février 2023, qui s'est passé dans le sud-est de la Turquie, à la frontière syrienne. Mais on a très régulièrement des séismes en mer Égée, et certains qui touchent aussi des quartiers d'Istanbul. Donc on a une ville qui est vraiment sous une pression très forte, qui est vraiment ressentie par la population, hein, toute la population qui habite dans des quartiers, qui ressentent les secousses assez régulièrement. Elle est très consciente du fait que ce sujet est un sujet très urgent maintenant. Et il se trouve que la politique de transformation urbaine antisismique, elle est encadrée, là encore, par l'État, par les organismes d'État. On a, je dirais, deux terrains de bataille. Enfin, on a trois terrains de bataille, puisqu'effectivement, Jean-François Pérouse vient de citer celui des grands travaux, des grandes infrastructures. Il y a aussi le terrain du logement social à Istanbul. Il ne faut pas oublier que c'est une ville qui a grossi de manière complètement folle à cause de l'exode rural. C'est la ville dont on dit toujours que c'est la première métropole kurde, par exemple. C'est-à-dire que l'exode kurde du sud-est, lié aux affrontements avec le PKK, il a fait énormément grossir Istanbul. Et il y a le sujet antisismique, avec des injonctions données aux citoyens d'Istanbul de quitter leur logement pour certains, de voir se détruire le logement et de devoir reconstruire. Donc ça alimente aussi la machine du BTP, dont on sait qu'elle est très liée à l'AKP et à Erdogan lui-même, puisqu'il a des proches qui sont très investis dans des entreprises de BTP turques. Donc tous ces terrains, sur le social et la reconstruction sismique, le jeu de l'AKP est de dire que la municipalité d'Istanbul n'est pas à la hauteur et que c'est l'État qui s'en occupe. Et sur le logement social, évidemment, tout ce qui est du domaine du social est un terrain qui est réinvesti par l'opposition aujourd'hui, qui avait la réputation d'être une opposition un peu aristocratique, loin du terrain, de ne pas comprendre les besoins. Or, comme l'a dit Jean-François Pérouse au début, il y a eu beaucoup de mesures très importantes pour la popularité d'Imamoglu, qui sont oui, les foyers pour étudiants, la carte de transport pour les mères de famille, les crèches. Il y a un énorme travail de proximité qui a été fait auprès de la population. Et donc, cette question du logement, elle est un lieu de bagarre, évidemment, entre les deux, avec peut-être aujourd'hui encore un peu l'avantage à l'AKP, parce que c'est une bataille que l'AKP mène depuis 20 ans.
Et de façon peut-être plus anecdotique, quoique, parce que ça touche quand même à la vie quotidienne des Stambouliotes, Jean-François Pérouse, dans les transports, il y a aussi des conflits entre les deux autorités, et ça se voit dans les métros notamment. Il y a deux organisations des transports en commun différentes. Qu'est-ce que ça donne concrètement au quotidien? Qu'est-ce que ça donne pour les correspondances? Est-ce que ça se voit, entre guillemets, cette organisation à deux étages?
Ah bah oui, ça se voit, hein, c'est patent, puisqu'on a le réseau U, qui est le réseau qui est géré directement par le ministère des Transports et des Télécommunications, et puis le réseau M, qui est géré par la municipalité métropolitaine. Et quand on est dans le réseau M, l'information sur le réseau U est limitée, et l'inverse aussi, les connexions ne sont pas excellentes. Alors, ça a eu, en termes de cette rivalité, en termes de kilomètres construits, ça a eu des effets bénéfiques, mais pas vraiment en termes de rationalité du réseau, hein, de l'organisation de celui-ci. Et puis on a des univers moraux et politiques complètement opposés entre donc les voitures du réseau U, où l'on chante les gloires du président de la République et du ministre des Transports, et puis les voitures du réseau M, où l'on chante la gloire d'Imamoglu. Donc c'est assez, c'est quasi schizophrénique, hein, comme système. Hein. Et bon, je ne sais pas si finalement les Stambouliotes sont bénéficiaires dans cette affaire. Hein. Mais je voudrais redire ajouter un point concernant le séisme, parce que c'est extrêmement révélateur, hein, du mode de fonctionnement et du mode de gouvernance de l'AKP, qui toujours recourt, hein, à l'exception pour pouvoir justifier ces incursions, hein, ces interventions qui court-circuitent en fait tous les systèmes de gestion, hein, territoriale qui pouvaient exister et dont le contrôle peut lui échapper. Hein. Donc là, le séisme est vraiment utilisé comme un prétexte, hein, pour une intervention, hein, autoritaire, hein, de l'État central, au mépris des documents d'urbanisme, hein, et au mépris de la distribution des compétences, hein, telle qu'établie, hein, mais qui n'est pas du tout respectée. Et c'est la même chose, hein, pour toute cette politique, hein, qu'on appelle la transformation urbaine, hein, qui voudrait, dans les 25 ans, remplacer la moitié du tissu urbain d'Istanbul pour le consolider. Hein, et bien là aussi, hein, elle se déroule sous le signe de l'exception. Et qui dit exception dit rapidité, dit court-circuitage hein, des procédures de contrôle, des études d'impact environnemental, etc. etc.
Cette rivalité aussi entre le gouvernement central et la municipalité, qui est aussi une rivalité dans l'information, en tout cas c'est ce que vous nous disiez pour les transports, les passagers de la ligne U ne savent pas exactement ce qui se passe sur la ligne M, qui ne sont pas gérées toutes les deux, l'une par la métropole, l'autre par le pouvoir central. La rivalité dans l'information, elle peut être aussi totalement déplacée quand ces informations sont vitales. Quand cette année, par exemple, un séisme d'une magnitude de 6,2 s'est produit en mer de Marmara, l'AKP a très rapidement partagé sur les réseaux sociaux une liste des numéros d'urgence des mairies à contacter pour demander des informations ou recevoir de l'aide, mais ce n'était que des mairies ou des arrondissements dirigés par le parti. C'est Courrier International qu'il avait raconté à l'époque en citant un journal stambouliote. Dorothée Schmitt, alors si aujourd'hui la municipalité d'Istanbul n'est pas totalement asphyxiée, même si Jean-François Perrouse nous a bien expliqué par quelles astuces le gouvernement central avait réussi à tarir quand même beaucoup les ressources de la ville. Alors quel financement extérieur éventuellement l'aide à se tenir à flot? Est-ce qu'on sait? Parce que c'est un enjeu technique certes, mais qui a des conséquences politiques.
Mais il y a beaucoup de bailleurs. Bon, il y a des banques privées turques. Il y a beaucoup de bailleurs extérieurs aussi. Nous, à l'IFRI, on a travaillé avec l'Agence française de développement qui finance beaucoup le développement municipal en Turquie sur toutes les questions de infrastructures, assainissement. Et donc, on a un engagement des bailleurs internationaux sur une ville qui est perçue comme étant... évidemment, la capitale économique de la Turquie, le poumon économique du pays pratiquement, et qui donc de toute façon survivra quelle que soit la gouvernance, je dirais quelle que soit la couleur de la gouvernance, il faudra que ces travaux soient menés à Istanbul. Donc il y a une vraie sécurité pour les financiers à investir dans ce type de projet, dans une ville de cette taille et de ce rayonnement, je dirais.
Alors Istanbul a longtemps bénéficié, en tout cas c'était le cas dans les années 2000, d'aides européennes versées en vertu du principe de subsidiarité, selon lequel la compétence et la responsabilité d'une action publique reviennent à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont concernés. Mais aujourd'hui on est dans une forme de recentralisation et ces aides sont bien moindres, même si de nombreux maires à l'échelle européenne, des confrères d'Ekrem İmamoğlu ne cessent de lui répéter leur soutien.
Nous sommes une délégation qui représente les maires européens d'Athènes, de Budapest, de Sofia, de Timisoara, d'Utrecht, de Zagreb, de Madrid et de Barcelone. Nous sommes venus à Istanbul pour exprimer notre solidarité avec le maire Ekrem İmamoğlu. C'est dans les villes que la démocratie devient réelle, que les gens font l'expérience de la solidarité, de la dignité et des services publics qui répondent à leurs besoins. C'est pourquoi nous, maires européens, défendons ensemble la liberté, la démocratie et l'état de droit, car nous savons à quel point il est vital de les sauvegarder en ces temps difficiles.
En plus de ce discours politique, Dorothée Schmitt, est-ce que les élus des municipalités européennes qui viennent d'être cités peuvent contribuer à aider Istanbul ou ça ne se passe pas comme ça?
Je crois que ce qui était très frappant au moment de l'arrestation d'İmamoğlu, c'est qu'on a eu très peu de réactions étatiques. En fait, on a eu très peu de réactions nationales. En revanche, on a eu beaucoup de réactions de maires et notamment de maires de grandes villes, de capitales européennes. İmamoğlu a aussi été fait citoyen d'honneur de la ville de Paris par Anne Hidalgo, par exemple. Et ça, c'était extrêmement frappant, je crois, pour nous, analystes, qui avions le sentiment quand même d'une dégradation démocratique extrêmement forte, de voir que ce n'était pas perçu de cette façon, ou qu'en tout cas les autorités nationales considéraient qu'elles n'avaient pas à réagir parce qu'il s'agissait d'un maire d'une ville. Et là, on est vraiment au cœur de votre émission, hein, la ville contre l'État.
Est-ce que, Jean-François Perrouse, Recep Tayyip Erdogan a une vraie stratégie en amoindrissant les prérogatives de la municipalité d'Istanbul, ou c'est, entre guillemets, juste qu'il se sent beaucoup trop concerné? Non, c'est plutôt, est-ce que c'est l'un et l'autre? C'est-à-dire qu'il se sent très concerné, lui qui a été maire d'Istanbul lui-même, il a une relation personnelle à la ville, il a vu cette ville aussi se soulever contre lui en 2013, la révolte de Gezi qui a fait tache d'huile dans tout le pays. Jusqu'où aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan est-il attaché viscéralement à cette ville, qui expliquerait aussi cette attitude peut-être d'une certaine façon?
Oui, il a un attachement fort, mais parce qu'il sait l'importance vitale hein, pour le rayonnement du pays, pour l'économie du pays, hein, de cette métropole de plus de 16 millions d'habitants. Donc, il a un agenda qui est clair, hein, c'est récupérer cette métropole pour pouvoir contrôler à nouveau hein, toutes ses ressources. Hein. Mais c'est aussi plus largement... affaiblir hein, un parti qui constitue une véritable menace pour lui dans le cadre en tout cas d'un fonctionnement démocratique, et donc pour ça il est prêt à tout hein, pour empêcher ce parti hein, et ce qu'on pourrait évoquer aussi parce qu'il y a tout un contexte, c'est les attaques qui ont été conduites hein, parallèlement aux attaques conduites contre les mairies, hein, contre le parti lui-même, hein, contre la direction départementale du parti. Hein. Là aussi, on a placé un administrateur provisoire, enfin, ce qui est quand même assez stupéfiant. Hein. Donc, c'est vraiment une offensive hein, tous azimuts hein, et qui vise à réduire hein, un adversaire politique hein, et donc au-delà de la personne de Dima Molou hein, c'est l'ensemble de l'appareil hein, du parti républicain du peuple hein, qui est visé.
Le Parti républicain du peuple que j'appelle le CHP parce que c'est ainsi qu'on le lit en français, qui s'appelle le CHP en turc, et vous l'avez bien dit l'un et l'autre. Alors les inquiétudes aujourd'hui, maintenant que l'équipe de Dima Molou à Istanbul sont pour beaucoup sous les verrous, et bien toutes les inquiétudes se portent vers Ankara qui est également dirigé par un maire du CHP, Mansour Yavaş. On en parle dans le Focus avec Gülçin Erdi, juste après cette chanson Istanbul qui date de 2004 par une chanteuse qui n'est pas turcophone à l'origine, Pamela Spence, une artiste anglo-turque, mais cette chanson avait eu beaucoup de succès à l'époque. Bir ortak geçmişimiz var, bir de hep açık yaralar. Kendine hatırlattın, fazla parlamış anılar. Karşıma her yerde çıkan 30 yaş üstü adamlar. Hep seni sevmiştim diyen bir şeyler bekler bakışlar. Yer çekimine yenik üstün başın. Istanbul, une chanson de la chanteuse Pamela Spence, artiste anglo-turque. Cette chanson date de 2004. Vous écoutez Culture Monde, c'est le deuxième épisode de notre série sur les villes face aux États. Aujourd'hui, Istanbul, donc assiégée par le pouvoir central. La métropole a perdu tous les opposants de l'AKP, du maire Ekrem İmamoğlu, à quasiment tous les autres élus locaux du Parti républicain du peuple, le CHP. Et c'est à Ankara, aujourd'hui, qu'on trouve une opposition à peu près libre de ces mouvements. Mais jusqu'à quand ce maire Mansour Yavaş, qui devient de fait un probable adversaire d'Erdogan pour la prochaine présidentielle.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
À Ankara, le béton a perdu les élections. Le vert a gagné. À Ankara, le faste et la richesse injuste ont perdu les élections. Le travail, le dur labeur ont gagné. À Ankara, les spéculateurs ont perdu les élections. Le municipalisme social a gagné.
Mansour Yavaş, le soir de sa réélection à la mairie d'Ankara en mars 2024, quel maire de la capitale turque est-il et quel rapport de force a-t-il mis en place avec l'AKP de Recep Tayyip Erdogan ? Bonjour Gülçin Erdi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, ancienne responsable de l'Observatoire urbain de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Alors, votre dernier ouvrage porte sur Ankara, Ankara, miroir de la Turquie moderne. Il paraîtra le 15 janvier prochain aux éditions de l'Université de Bruxelles. D'abord, quelle mère est Mansour Yavaş pour les habitants d'Ankara? Qu'est-ce qui lui a valu d'être réélu en 2024 avec près de 62% des voix?
Quelle mère est Mansour Yavaş? D'abord, Mansour Yavaş est un vrai Ankariote. Et pendant son premier mandat, qui est tombé quand même sur la pandémie du Covid-19, qui lui a laissé l'opportunité de mettre en place, comme il dit dans sa déclaration qu'on vient d'écouter, des politiques sociale au niveau local, notamment avec la distribution à grande échelle des aides, des colis de nourriture, des hébergements des étudiants, l'embauche de couturiers locaux pour la fabrication des masques, etc., etc. Et surtout la réussite de Mansour Yavaş est justement son opposition à un autre modèle d'urbanisme qui a été imposé à Ankara par les politiques de Melih Gökçek. Et ce maire qui a géré la ville pendant 25 ans, qui appartenait à l'AKP et qui a complètement transformé le visage d'Ankara et déformé l'urbanisation et la construction de la ville avec des projets fous comme des énormes parcs d'attractions ou pillages des espaces verts comme le parc forestier d'Atatürk.
Exactement, ce qui avait d'ailleurs fait se soulever les habitants d'Istanbul quand on a touché au parc de Gezi, ces parcs verts, ces arbres qu'il ne fallait pas couper, et bien sûr tout ce qui s'en est suivi et tout ce qu'on a retenu de ce mouvement social beaucoup plus vaste. Est-ce que Mansour Yavaş, qu'est-ce qu'on peut dire de ses points communs dans sa politique et ses pratiques, ses points communs avec son confrère d'Istanbul, İmamoğlu, et en quoi est-ce qu'il ne lui ressemble pas, au contraire?
Ce qui rassemble dans les deux municipalités et dans les deux figures de maire, à mon avis, les deux ont compris que le modèle de municipalisme des années 90 qui ont été lancés par ancien parti de l'AKP, hein, en fait, qui était Refah Partisi, ensuite Saadet Partisi, c'est-à-dire la dimension sociale et populaire des politiques urbaines, c'est-à-dire d'organiser en fait les politiques municipales au niveau local, par le base, en passant par les habitants et par les quartiers plutôt pauvres, qui leur a valu quand même un soutien important, non seulement auprès des populations aisées, éduquées, etc., mais aussi auprès de populations qui était dans des difficultés économiques, financières, etc. Ce qui le distingue de İmamoğlu, c'est d'abord son allure. Il a pas du tout l'allure de Ekrem İmamoğlu d'un côté, et de l'autre côté, c'est son passé lié aux droites nationalistes et les loups gris.
Le MHP aussi, c'est un ancien de cette extrême droite, de la Exactement. Droite nationaliste, le MHP, qui est aujourd'hui un allié de la KP.
Ouais. Exactement. Et il faut dire aussi que Mansour Yavaş est vraiment l'enfant d'Ankara. Donc, c'est-à-dire qu'il est né à Beypazarı, un arrondissement rural d'Ankara. Il est devenu le maire de cette ville. Et il a transformé vraiment le visage de Beypazarı et il est très connu au niveau local. Donc c'est comme ça qu'il est apparu comme un candidat plausible face à AKP lors de sa première élection.
Et au niveau national, Gülşin Erdi, si les inculpations pour corruption sont désormais l'arme du pouvoir pour écarter les personnalités politiques qui sont à la fois des opposants à l'AKP et par trop populaires au goût de Recep Tayyip Erdogan, alors pourquoi Mansour Yavaş n'a pas été inquiété?
Il y a plusieurs raisons à cela. Si vous vous rappelez, en fait, Ekrem İmamoğlu a été considéré comme le leader d'une organisation tentaculaire de crime organisé. Et la structuration d'Istanbul, qui est une mégapole, permet de peut-être faire ce genre d'accusation. Mais Ankara, le contexte et l'actualité est complètement différente. D'abord, ils ont lancé quand même des enquêtes contre Mansour Yavaş. Actuellement, il y a 4 enquêtes le concernant, mais ces enquêtes restent des enquêtes assez modestes en termes d'accusations. C'est soit des utilisations de ressources lors de meetings, soit l'argent utilisé pendant le concert de la fête républicaine, etc. Et surtout, pour l'instant, on ne sait pas, c'est pas clair que Mansour Yavaş va devenir vraiment le candidat officiel du CHP si İmamoğlu était amené à être interdit entièrement à participer à cette élection. Aujourd'hui, attaquer à Mansour Yavaş paraîtrait comme un acte vraiment offensif de la part de l'AKP justifierait les discours selon lesquels le viser est vraiment le parti CHP, quel que soit le candidat, on va l'attaquer par des enquêtes judiciaires et donc ça enlèverait toute légitimité aussi à une deuxième enquête d'ampleur concernant Mansour Yavaş.
Alors peut-être aussi a-t-il encore des contacts au sein du parti dont il était membre, le MHP, qui est aujourd'hui un allié de l'AKP. Peut-être est-il au courant, entre guillemets, des éventuelles manœuvres qui le viseraient. En tout cas, il est sans doute plus informé que son collègue d'Istanbul sur ce qui se passe aujourd'hui au sein du pouvoir. Peut-être, pour conclure, Gülçin Erdi, est-ce que la ville d'Ankara, en elle-même, a autant d'importance aux yeux de Recep Tayyip Erdogan que celle d'Istanbul? Est-ce que ça explique pourquoi, pour l'instant, le président turc s'est vraiment concentré sur Istanbul?
Je ne sais pas s'il a autant d'importance, mais en tout cas, il s'agit de la capitale du pays. Et les débats et les coulisses politiques sont en direct, en fait, pour tout le monde qui vit à Ankara. Je suis sûre, İmamoğlu suit aussi ce qui se passe, mais Mansour Yavaş a vraiment des canaux directs au sein des réseaux de MHP. Déjà, il ne faut pas oublier qu'au sein de sa municipalité, parmi ses conseillers, il y a énormément aussi des anciens de l'Ougri aussi, actuellement. Donc, il est quasiment en direct de ce qui se passe au sein de MHP, au sein du gouvernement, et bien évidemment je suis sûre qu'il est aussi protégé un peu par ses réseaux qu'il apprécie énormément, et du coup je pense qu'il y a un pacte non dit pour l'instant entre MHP et AKP de ne pas vraiment toucher massivement l'image de Mansour Yavaş.
Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous repose par ailleurs la question sur la ville d'Ankara qui avait été choisie par Mustafa Kemal comme capitale parce que c'est là qu'il a entamé sa reconquête dans les années 20. Cette capitale aujourd'hui que Recep Tayyip Erdogan aurait peut-être voulu voir s'effacer au profit d'Istanbul. Il a essayé de transférer le pouvoir politique à Istanbul. Est-ce qu'il a essayé, petit 1, est-ce qu'il a réussi, petit 2?
Il a essayé en fait de transporter le pouvoir effectivement à Istanbul en gardant des offices permanentes et transformant certains palais ottomans à Istanbul dans ce sens et essayant de transporter le centre financier et la banque centrale de Turquie. Mais pour l'instant, c'est un stand-by et surtout, tout en faisant ça, Erdogan a aussi essayé de transformer l'axe du pouvoir à Ankara. Il a changé les places du résidence présidentielle. Il a installé en fait son nouveau palais présidentiel au milieu du parc forestier qui appartenait à Atatürk, donc qui en fait occupait une grande partie. Donc ce sont des signes symboliques et politiques très importants, si vous voulez. Donc il néglige pas non plus Ankara. Il essaye de d'imposer son pouvoir et laisser sa marque aussi dans l'espace urbain d'Ankara. Donc je pense que pour l'instant, comme disait Dorothée Chimine, on est un peu entre les deux et j'ai l'impression qu'Ankara va regagner de l'importance dans les mois à venir, notamment concernant l'avenir politique du pays.
Merci beaucoup Gülçin Erdi. Votre tout nouveau livre Ankara, miroir de la Turquie moderne, paraîtra le 15 janvier aux éditions de l'Université de Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dorothée Schmidt, pour rebondir à ce que disait Gülçin Erdi, est-ce que vous pensez aussi que Ankara est en train de reprendre cette importance, notamment de fait, puisque l'opposition étant quasiment décimée à Istanbul, le centre de gravité se déplace vers Ankara. Est-ce que cette ville va reprendre un rôle politique particulier ?
Alors, en termes d'équilibre du territoire, ça se joue pas seulement entre Istanbul et Ankara. Effectivement, Ankara, d'abord, c'est la capitale, effectivement, politique. C'est une capitale historique qui incarne au départ la résistance à Istanbul. C'est de là qu'est repartie la reconquête de la Turquie par Atatürk. Et c'est une ville qui incarne un peu cet équilibre est-ouest de la Turquie. Or, comme on le disait au début de l'émission, le grand sujet politique de l'AKP aujourd'hui, à part la lutte contre les maires d'opposition, c'est le processus de paix avec les Kurdes. Les Kurdes, c'est surtout l'est du pays. Et donc, on a quand même une forme de rééquilibrage territorial qui incite à penser que la direction du pays, elle va être symboliquement, elle va se redéplacer vers Ankara aussi, parce qu'on a une renationalisation, tout simplement. C'est-à-dire que là, cette lutte contre les villes, on a eu, dans la première décennie de l'AKP, des réformes de décentralisation relative. Alors, ça reste encore un pays extrêmement centralisé. La Turquie, on parlait des finances des villes. Toutes les études vous diront que 50% de la trésorerie municipale, elle vient de l'État. C'est la dévolution par l'État. Et il y a des villes, à part Istanbul, la ville d'Izmir, par exemple, se plaint toujours du fait que ses ressources sont rétrécies par l'État, parce que ce qui importe, c'est pas que les villes soient pas financées, mais c'est que soit l'État qui contrôle. Donc là, quand on parlait des financeurs extérieurs, ce qui importe pour l'AKP, c'est d'autoriser ou non les financements à venir. Mmh. Et donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, l'AKP va renationaliser et va s'occuper de redistribuer les ressources de manière un peu différente.
Jean-François Pérouse, avec cette monomanie de Recep Tayyip Erdogan au sujet d'Istanbul, est-ce que ça a au moins contribué à desserrer l'étau sur d'autres municipalités qui jusqu'à présent subissaient cette pression énorme, et je pense particulièrement aux villes kurdes de l'Est du pays que vient de citer Dorothée Schmidt ?
Oui, dans le nouveau climat politique où Recep Tayyip Erdogan comprend la nécessité de se ménager un petit peu l'opposition kurde pour reconquérir un électorat kurde qu'il a largement perdu. Relativement aux agressions que subissent les mairies JHP, on peut dire que les mairies qui sont aux mains des partis kurdistes, et qui ont subi par le passé tout ce que subissent actuellement les mairies JHP. Donc on a quand même là des exemples qu'il faudrait étudier pour savoir de domination du centre sur les pouvoirs locaux. La situation est effectivement est plutôt apaisée dans les mairies de l'Est.
Merci Jean-François Pérouse. Oui, pardon, on arrive à la fin de cette émission, je vous prie de m'excuser. Il y a aussi d'autres villes qui sont passées aussi du côté CHP récemment, lors d'autres élections dont on n'a pas parlé. On parlait d'Istanbul aujourd'hui, mais la ville d'Adıyaman, par exemple, qui a été dévastée par le séisme de février 2023, a élu le CHP après 47 ans de domination conservatrice et 20 ans de l'AKP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-François Pérouse. Istanbul, planète, la ville-monde du 21e siècle. Votre livre a paru aux éditions La Découverte. Dorothée Schmidt, La Turquie en 100 questions, aux éditions Talendier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Le Nigeria, Catherine, n'arrive pas à endiguer la violence terroriste.
Ce qui désole un peu plus les civils désemparés et ce qui fournit de nouveaux arguments à Donald Trump pour critiquer le président nigérian, accusé de ne pas en faire assez pour protéger les chrétiens dans le pays. Mais c'est bien toute la population nigériane qui est à la merci des terroristes, des gangs criminels appelés des bandits par la population locale et le quotidien nigérian Vanguard. Les habitants des zones rurales fuient d'ailleurs leurs maisons en nombre ces derniers jours, raconte le journal The Punch, car les terroristes ont proféré de nouvelles menaces après avoir massacré au moins 40 personnes samedi dernier dans le village de Kasuwandaji, dans l'ouest du Nigeria. Certaines victimes avaient les mains liées dans le dos lorsqu'elles ont été tuées, rapporte l'AFP et des jeunes Afriques.
Locals in the area said the terrorists were heavily armed and carted away food items after setting the market ablaze.
Des habitants de la région ont déclaré que les terroristes étaient lourdement armés et qu'ils avaient emporté des denrées alimentaires après avoir incendié le marché. Ils ont également enlevé un nombre indéterminé de personnes, indique un journaliste de SABC News. Dans une région qui a récemment connu une recrudescence des attaques perpétrées par des groupes armés, des assaillants qui tuent et enlèvent des civils pour obtenir une rançon. En juillet, plus de 30 personnes ont été enlevées, leurs familles ont dû verser $35,000 pour leur libération. Et puis en novembre, des hommes armés ont kidnappé plus de 250 élèves et membres du personnel d'un pensionnat catholique. Ils ont finalement été libérés, rappelle SABC News, sans préciser si une rançon avait été versée. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est en proie à de multiples conflits. Une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays qui a fait depuis 2009 plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés, rappelle la BBC. Le conflit s'est étendu aux pays voisins, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Violence également de bandits dans le nord-ouest et l'ouest du Nigeria. Affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Activités séparatistes dans le sud-est. La population locale dénonce dans les pages de Vanguard l'incapacité du gouvernement à endiguer cette violence. Alors qu'aux États-Unis, Donald Trump dénonce, lui, une prétendue persécution des chrétiens. Il a lancé des frappes surprises le jour de Noël pour lutter contre un supposé génocide chrétien, rapporte le New York Times. Mais ces tueries touchent chrétiens et musulmans sans discrimination, comme l'assure un prêtre interrogé par le journal nigérian Vanguard. Et ces frappes aériennes, dans le nord-ouest du Nigeria à Noël, ont touché des zones agricoles, précise le New York Times, et non les terroristes islamistes que Donald Trump voulait viser.
C'est un autre volet de l'opération des États-Unis contre le Venezuela. Le Pentagone a envoyé des avions surveiller un pétrolier au large de l'Irlande.
Un navire qui tente de contourner le blocus naval imposé par les États-Unis au Venezuela. Ce pétrolier battait pavillon guyanais sous le nom de Bella One il y a quelques jours encore, raconte l'Irish Times, poursuivi par les forces navales états-uniennes depuis la mi-décembre, date à laquelle il s'apprêtait à charger du pétrole au Venezuela. Ce navire était sous sanction du Trésor américain depuis juillet 2024, précise CBS News et le Guardian. Washington l'accuse de faire partie d'une flotte clandestine qui transporte illégalement du pétrole entre pays et groupes sous sanctions comme la Russie, l'Iran et le Hezbollah, la milice libanaise chiite soutenue par Téhéran. Et selon Tanker Trackers, un organisme de surveillance spécialisé, ce navire, le Bella, avait précédemment transporté vers la Chine plus de 10 millions de barils de pétrole brut iranien et vénézuélien entre octobre 2021 et septembre dernier. Ce pétrolier, le Bella, a donc échappé à une capture dans les Caraïbes, puis il a mis le cap sur le nord, poursuit le Guardian, et là, changement de nom et de pavillon pour devenir le Marinera enregistré en Russie. L'équipe a même peint un drapeau russe à la hâte sur le flanc du pétrolier, décrit le Guardian, apparemment pour tenter d'échapper à une éventuelle saisie par les États-Unis près des îles britanniques.
Stratégie d'évasion généralisée.
Utilisant de faux noms, dissimulant leur position avec de faux signaux GPS, 16 pétroliers ont quitté le Venezuela depuis samedi et la capture de Nicolas Maduro, affirme le New York Times, image satellite à l'appui. L'idée est de saturer les zones maritimes alors que le Venezuela est sous pression pour écouler son pétrole brut. Ses capacités de stockage sont presque saturées à cause du blocus mené par la Maison-Blanche, analyse le New York Times, et l'arrêt de la production risque désormais d'endommager les infrastructures pétrolière vénézuélienne, pour certaines déjà en bien piteux état. Alors, pour en revenir au pétrolier Marinera, ex-Bella, qui navigue désormais près de l'Irlande, il est étroitement surveillé par plusieurs avions états-uniens, souligne le Guardian. Certains de ces appareils ont décollé de base des forces spéciales, ce qui laisse supposer, selon l'Irish Times, CBS News et CNN, que les États-Unis envisagent de prendre d'assaut ce pétrolier en mer. Un dernier mot en ce début d'année chargé, on le sait, j'attends vos questions, vos remarques sur l'actualité internationale, sur cette chronique, écrivez-moi à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com pour construire ensemble la revue de presse interactive du samedi avec à mes côtés un ou une spécialiste.
Merci beaucoup Catherine Dutu.